I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Mais je me suis pas arrêtée. En fait, je me suis jamais arrêtée. Donc en 10 ans, je me suis jamais arrêtée. Il y a un moment, forcément, ton corps, il te dit attention, faut s'arrêter.
Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Morgane Cesalori. Morgane est la créatrice de la marque de mode Cézanne, anciennement Les Composantes, qui était à sa création la première marque de mode 100% en ligne. Depuis, Cézanne est devenue une marque reconnue en France et à travers le monde, installée depuis peu aux États-Unis et qui lance des projets humanitaires d'envergure. Avec Morgane, on discute de son besoin de trouver du sens dans ce qu'elle fait et de son envie de bien faire. On parle de son parcours complètement atypique et de sa recherche de liberté. Morgane est du genre à arrêter l'école à 16 ans et à passer le bac en candidat libre. Enfin, on parle de son tempérament d'entrepreneuse infatigable jusqu'au jour de son burn-out. Elle raconte cet événement, nous explique comment elle s'en est sortie et décrit sa récente quête d'équilibre. Pensez à vous abonner à Nouvelle École sur iTunes ou Apple Podcasts, c'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute.
Bah on peut y aller. Et bah merci beaucoup Morgane Cesalori de venir sur Nouvelle École, je suis ravi de t'inviter.
Merci, écoute, c'est mon premier podcast. Ah non, deuxième.
Bah non, deuxième.
J'ai fait, ouais, mais tu vois, c'était tellement au soleil et entre guillemets en vacances que je me
avec Garance Doré.
Ouais.
Vous étiez où d'ailleurs?
On était à Marrakech.
Il y avait un événement là-bas, c'est ça?
En fait, elle m'avait invitée à participer à sa retraite, enfin une retraite, sa première retraite qu'elle organisait pour ses lectrices. Et en fait, à animer j'aime pas trop dire ça, mais un atelier, donc pas un workshop.
Un workshop.
Un workshop. On va dire un atelier, ouais, un atelier, un peu sur voilà, comment en fait, une marque, c'est aussi une histoire, et en fait, chez moi, c'est particulièrement vrai puisque mon histoire, avec Cézanne, c'est un peu une extension aussi de ma vie personnelle, donc.
Même le nom, c'est une contraction de ton nom.
Exactement, ouais.
Je laisse les auditeurs se faire la contraction dans leur tête.
Voilà.
Oui, c'est ton deuxième podcast, mais le premier était en anglais, donc j'ai un peu l'exclusivité de ton podcast.
Oui, c'est vrai.
Podcast.
Voilà, tu vois, c'est mon premier podcast en français et avec un micro dans la main.
Donc Morgane, tu es la fondatrice de Cézanne, qui s'appelait avant Les Composantes,
ouais.
que tu as créé en 2008 et puis que tu as changé, transformé en 2013.
Ouais.
D'ailleurs, si je ne me trompe pas, je crois que tu as lancé Cézanne le 21 à 21h21, quelque chose comme ça.
Alors écoute, ça vraiment, je pourrais pas te dire, j'ai pas une mais
j'ai lu ça quelque part
mais c'est possible parce qu'en fait mes ventes à l'époque, enfin je veux dire avant Cézanne, c'était tous les premiers mardis du mois à 21h ou 21h21. Et en fait je suis très sensible aux heures parallèles.
C'est important pour créer une récurrence chez les gens qui te suivent. Moi, je fais ça aussi. Depuis que je fais ça sur Nouvelle École, ça a quand même pas mal transformé le podcast.
C'est vrai, ouais, en fait, ça crée aussi un vrai rendez-vous et du coup, une envie de revenir, quoi.
Et donc, on va parler de Cézanne, on va parler de tout ce que tu fais. Et moi, je voulais pas faire une interview parcours parce que c'est un peu les interviews qu'on voit tout le temps, surtout ouais. de toi. Mmh. Et je préfère commencer par la fin.
D'accord.
Et on en parlait juste avant, mais récemment, tu viens de lancer un projet qui s'appelle Demain, mmh. où, qui est en fait un projet humanitaire. Tu avais déjà fait quelques projets humanitaires un petit peu avant.
Ouais.
Et donc, en fait, là, si j'ai bien compris, et tu m'arrêtes si je dis des bêtises, parfois je dis des bêtises, tu sors un t-shirt. Mmh. Et en fait, les bénéfices des ventes vont ouais. aller à des associations caritatives
exactement.
Pour les enfants. Là.
Ouais.
Et je crois que ce que tu as envie de faire, c'est de récolter, tu as dit, 1 million d'euros en 2018.
Exactement. Il n'y a, voilà, y a pas uniquement le t-shirt, il y a donc l'appel du 21, où effectivement, on va lancer une création chaque mois. L'idée, c'est aussi que les gens voilà, aient envie de revenir soutenir ces projets qui sont solidaires. Et puis, on va avoir une boutique solidaire. Ça, c'est hyper important aussi, puisque en fait, l'idée, c'était de pas avoir seulement un moyen d'aider et puis de laisser la liberté aux gens de pouvoir participer comme ils veulent. Et donc, moi, voilà, je me disais, voilà, tout le monde va pas forcément avoir envie d'acheter voilà, une création, même si tous les bénéfices sont reversés à un projet solidaire. Et en plus, tout le monde n'a pas forcément voilà, le budget au moment du lancement. C'est hyper important de laisser des alternatives. Et donc voilà, la boutique solidaire, c'est génial parce que c'est une autre façon de participer. On peut ramener une pièce Cézanne qu'on a déjà. On peut aussi venir en acheter une. Et en fait, là aussi, tous les bénéfices sont reversés à Demain. C'est aussi une façon de recycler. Donc, c'est aussi intéressant de prendre cette direction qui nous est, je pense, pour notre génération hyper chère, quoi. Et puis il y a des actions concrètes, donc avec notre équipe qui a très envie de s'engager. Je pense qu'aussi c'est pas que notre génération, mais on ressent tous ce besoin de faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a aussi mis en place un tote bag qu'on peut en fait, l'idée, c'est de faire un don.
C'est quoi
un tote bag? Excuse-moi, c'est un sac en coton.
Je suis niveau débutant quand même.
Non,
j'ai progressé depuis le début du podcast, mais
non, mais chez nous c'est forcément il y a temps, mais, ouais, t'as raison. Et du coup, ouais, non, en fait, quand tu passes ta commande au moment du panier, tu peux décider de donner ce que tu veux, le montant que tu veux, et en échange, tu reçois un tote bag, et nous on reverse aussi tout ça au projet Solidaire Demain. Et en fait, et voilà. Donc en fait, pour moi, effectivement, c'est le plus gros, c'est mon plus gros projet. Je pense que c'est la première fois aussi que je me dis, en fait, je vais, enfin, c'est un devoir de le faire. C'est aussi un devoir parce que aujourd'hui, on a quand même une communauté qui est mine de rien importante, et en plus avec qui il y a un vrai lien. Donc, je pense qu'on est, je trouve qu'on a un devoir citoyen d'agir, même si on est une entreprise. Et puis moi, c'est des sujets qui me sont particulièrement chers parce que j'ai aussi un parcours atypique, que ma famille, elle a un parcours atypique, et que je suis hyper, enfin, je sais évidemment que c'est en travaillant aussi aujourd'hui pour l'avenir qu'on peut faire quelque chose, et que je supporte pas l'idée en ce moment de cette société en fait qui commence à vraiment se fragmenter avec des gens qui ont peur et peur de l'autre. Et en fait, ça,
toi, t'as pas peur?
Moi, j'ai pas peur. J'ai peur de mourir parce que je sais pas malheureusement, enfin non, je veux dire malheureusement oui, je sais aussi ce que c'est, tu vois, de perdre quelqu'un, donc et je sais que ça peut arriver. Mais j'ai pas peur de la vie, et j'ai pas envie d'avoir peur des autres. J'ai eu la chance de voilà d'avoir une particulièrement des parents tellement ouverts, et une maman tellement extraordinaire, enfin qui est toujours là et qui n'a voilà qui a toujours été proche des gens, de n'importe qui, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, et qui ne juge pas, et du coup bah qui laisse sa chance aussi à tout le monde. Donc voilà, et puis en fait la réalité, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas de chance, enfin à la naissance quoi, en tout cas pas les mêmes chances, et que ça me semble, enfin ça c'est un truc que je supporte pas, cette idée là. Donc
tu veux dire que t'aurais ressenti un vide si tu faisais juste Cézanne,
ouais,
en termes donc économiques quoi, d'une société, sans essayer de lui donner un sens à travers des actions comme celle-ci?
Exactement, enfin en tout cas je l'ai jamais senti ce vide, parce que je crois que j'ai toujours essayé de donner du sens, tu vois, déjà parce que individuellement
déjà quand tu l'as créé,
oui,
dès le départ t'avais,
ouais,
une idée,
ouais,
de faire
en
un
fait,
truc avec du sens.
En fait j'ai jamais voulu créer cette entreprise. Si tu connais un peu le parcours, c'est arrivé c'est arrivé, c'est complètement organique et je pense aussi que c'est un peu la magie et la sincérité et la beauté de cette histoire, c'est que je me suis pas réveillée un matin en faisant un business plan et en me disant je vais créer une marque de mode en ligne en fait.
Alors ça c'est intéressant, on peut en parler du coup vu que c'est ton premier podcast. Je trouve ça très intéressant ce que tu dis que t'as jamais voulu créer Cézanne et à travers tous les gens que j'interviewe sur Nouvelle École, on remarque qu'en fait la plupart du temps c'est rare les gens qui disent je vais créer ça et qu'ils créent et ça fonctionne. Souvent ça se fait un peu par plein de petits accidents successifs. Et toi en fait t'étais pour revenir un peu loin, t'étais ultra atypique même parce que t'as arrêté l'école à 15 ou 16 ans, quelque chose comme ça. À 16 ans, c'est ça ?
Enfin, alors ouais, j'étais en candidat libre. J'ai décidé de passer mon baccalauréat en candidat libre à partir du bac français. Enfin, tu vois, en première quoi. Donc et puis après, je l'ai passé vraiment, enfin l'année d'après, en vrai candidat libre, même pas en suivant effectivement le CNED ou quoi que ce soit. Parce que en fait j'avais la chance d'être partie quelques mois, enfin une année, une petite année aux États-Unis quand j'avais 15 ans, donc je parlais quand même enfin assez bien, en tout cas assez bien pour avoir quelques points faciles en anglais. Et puis j'étais bonne globalement, voilà, j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé écrire, donc je me disais qu'a priori si je lisais des livres et que je restais à l'écoute entre guillemets de...
Mais ça c'est une maturité énorme. Tu dis que tout à l'heure on parlait de la peur. Toi, t'avais vraiment pas peur et tes parents avaient pas peur non plus que tu te dises « Ok, je peux passer le bac toute seule, j'ai pas besoin de... »
Je pense que mes parents étaient divorcés à ce moment-là. Ma mère, c'est quelqu'un de très, très, très libre et qui, en même temps, a toujours eu confiance en nous. Donc, moi, j'ai toujours été très libre dans ma tête. Je le dis souvent, et en même temps, j'ai toujours eu, je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, j'ai toujours eu une forme extérieure assez sage. Mais je pense que je suis la personne la moins sage intérieurement, tu vois.
Pourquoi?
Bah, parce que je remets absolument tout en question. Je ne crois, enfin, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de choses. On n'est pas du tout obligé de suivre des systèmes.
Quand tu dis que t'es pas sage, c'est que tu remets tout en question, c'est ça?
Ouais.
Tu réfléchis beaucoup, quoi.
Ouais, je réfléchis beaucoup et puis je suis pas d'accord avec beaucoup de choses aussi. Enfin, je veux dire, tu vois,
depuis jeune. C'était quoi les choses avec lesquelles t'étais pas d'accord?
Bah, j'étais pas d'accord. J'ai jamais été d'accord avec, ça paraît hyper bateau, mais l'injustice, ça m'a toujours, je pense que ça, c'est mon histoire. J'étais pas d'accord. Enfin, tu vois, j'avais la chance d'être, nous, on a eu une enfance quand même assez privilégiée par rapport à moi, mes parents, j'avais complètement conscience qu'il y avait d'autres enfants qui avaient pas ces mêmes chances, même dans
mon école. Parce que t'es née en Afrique.
Je suis née en Afrique.
T'es née au Zaïre, ça.
Ouais, exactement. Et puis après, j'étais à l'école, on est rentré à l'élémentaire, j'étais à la Garenne-Colombe, donc c'était une banlieue géniale parce que vraiment, pour le coup, avec plein de milieux sociaux différents et de gens d'origines différentes. Donc moi, j'ai aussi eu la chance d'être entourée, de parcours complètement différents. Ça m'a complètement, ça a déterminé aussi, je pense, cette ouverture et la curiosité qui est, tu vois, et la conscience qu'il n'y a pas, il n'y a pas qu'un modèle de vie. Il n'y a pas, évidemment, on est tous issus souvent de familles vraiment avec des schémas différents. Et voilà, donc c'est vrai que...
Et ça t'a donné tôt l'envie de tout remettre en question, c'est ça ?
Oui, après, je pense que, tu vois, ça se fait naturellement. Je pense que ma mère, déjà, elle a une telle liberté. Et mon père aussi, quelque
part. Qu'est-ce que ça veut dire, une telle liberté ?
C'est quelqu'un qui n'a... Tu vois, déjà, elle ne pense jamais au regard des autres. Ce qui est génial, parce qu'en fait...
Pour de vrai.
Ouais, pour de vrai. Et puis, elle a un cœur si grand qu'elle est libre. Tu vois, elle fait des choix de cœur, en fait. Elle fait toujours des choix de cœur. Et jamais de... il se trouve qu'elle a un instinct...
S'écoute, en fait, c'est ça?
Ouais, elle s'écoute. Elle a une intelligence, tu vois, instinctive et qui est si forte que du coup, en fait, les deux marchent très bien. Je pense que c'est ça qu'elle m'a beaucoup transmis, en fait.
D'ailleurs, ça m'intéresse. Comment elle te l'a transmis? Et toi, maintenant, t'as des filles. Deux filles. Et est-ce que c'est quelque chose que t'as envie d'arriver à transmettre? Et comment tu fais, du coup?
C'est intéressant. Je pense qu'elle me l'a transmis très naturellement, tu vois, sans jamais, en fait, essayer de transmettre quoi que ce soit, juste en étant elle un... Et c'est pas en essayant d'être un exemple, juste en étant ce qu'elle est. Et c'est une femme, et je dis, elle a aussi ses défauts, clairement, comme tout le monde, mais humainement, j'ai rencontré personne, comme ma mère, et c'est hyper, forcément, elle a toujours été, incroyable humainement. Et donc elle nous a transmis ça, en fait.
Toi, comment tu fais, du coup?
Et moi, comment je fais, pardon? En fait, tu vois, c'est drôle parce que je parlais à une coéquipière au travail avant la naissance de son petit garçon. Et elle me demandait si j'avais peur, en fait, si j'avais eu peur avant d'avoir mes filles de ce qu'elles deviendraient. Et en fait, je disais, mais pas une seconde. En fait, c'est un truc où jamais. En fait, je me suis dit, mais, enfin, je me dis tous les jours, mais en fait, nous, on doit être fidèles à nous-mêmes, mon mari et moi, et je crois qu'on est, tu vois, on est profondément des gens, ouverts et curieux et aimants et qu'on va juste, vivre, tu vois, au jour le jour.
Vous allez faire de votre mieux.
Ouais.
Sans vous dire comment on transmet ça, comment on transmet.
C'est sûr. Enfin, tu vois, déjà, tu peux pas prévoir l'enfant. Tu peux pas imaginer l'enfant que tu vas avoir. Moi, après, j'avais une conviction parce que j'ai eu un frère génial et j'ai une sœur extraordinaire aussi de toute façon, tu vois, donc pour moi, c'est naturel, en fait. Pas naturel, mais je me suis dit, y a pas de raison que ces petites filles, ça devienne pas des personnes qu'on appréciera, enfin nous et le monde autour. Et en fait, du coup, je pense que le fait d'être bien entouré, surtout avec une famille super, dès le départ, quand même, ça donne une confiance dans les gens, tu vois. Moi, j'aime les gens, quoi, profondément, et parce que voilà.
Parce que t'as été bien entourée, tu trouves, depuis.
Depuis ma naissance, et puis en plus après, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai rencontré. Des gens exceptionnels et notamment mon amoureux.
On va en parler d'ailleurs, ça m'intéresse aussi ça. Je trouve que tu as l'air en tout cas d'avoir une capacité à toujours trouver des bonnes personnes ou à bien t'entourer ou avoir un environnement positif. Mmh. Est-ce que j'ai raté des choses et tu as eu parfois des environnements ultra toxiques et du coup tu as dû apprendre à choisir les bonnes personnes ou est-ce que naturellement tu as trouvé les bonnes personnes
Parce que
je crois qu'on attire un peu ce qu'on dégage.
Oui.
Il faut d'abord travailler. Parfois, faut travailler sur soi d'abord.
Bien sûr, ouais.
Et puis parfois, on dégage peut-être déjà la bonne chose. Et...
Mmh. Ouais, après, ça, je crois que malheureusement, tu vois, enfin, je veux dire, on échappe, personne n'échappe à un moment, à une rencontre qui peut faire du mal. Ou... Après, moi, j'ai eu plutôt de la chance, effectivement, surtout dans mes histoires d'amour, même jeune, d'être avec. Après, je pense que c'était aussi ma nature, effectivement, tu vois, j'étais pas. Enfin, j'ai jamais été attirée par le bad boy qui allait me faire du mal. Et en tout cas, moi-même, j'avais peut-être que j'avais aussi la présence d'esprit de me dire, c'est pas pour moi et je m'en éloigne. Ou je sais pas. En tout cas, j'ai pas, tu vois. Et du coup, j'ai eu des histoires d'amitié et d'amour, surtout vraiment déterminantes, notamment, tu vois, l'histoire que je vis aujourd'hui avec mon mari qui est magique. Donc, voilà.
Parce que du coup, pour en revenir à Cézanne, c'est là que je fais faire le lien un peu avec ce qu'on disait.
Ça va être le bazar ton podcast, parce que c'est je pars dans tous les
sens. Ouais, mais j'aime bien. En fait, voilà. C'est un podcast qui est tout en digression. Alors parfois peut-être qu'on exagère, mais là je trouve ça très bien. Moi, je suis très content. En fait, tout à l'heure tu disais j'ai lancé Cézanne un peu par accident. En fait, ce que t'as fait, c'est que je crois que ta sœur partait pour Londres et t'as laissé des sacs d'habits.
Ouais.
Et toi, tu les as vendus sur eBay.
Alors ça, c'était quand j'avais 17-18 ans. Donc
première expérience avec la vente.
Exactement. Ouais. Et sans savoir effectivement que ça serait le début de ma vie professionnelle, c'était après le passage du baccalauréat.
Alors là, ça va être de ma faute, mais je voulais juste dire un truc. Est-ce que c'est vrai que lorsque tu as passé ton bac en candidat libre, tu voulais a priori faire Sciences Po?
En tout cas, je voulais faire. Enfin, tu vois, moi, c'est pour ça que je dis avec deux mains que je suis trop contente parce que, effectivement, je pense que quand j'étais petite et même. Même toujours, je me suis toujours dit que j'avais envie de créer du sens. Et évidemment, dans mon schéma de pensée, il fallait à un moment donné, faire des grandes études et donc étudier les sciences politiques. Ça paraissait un chemin assez certain aussi pour, tu vois, après, pourquoi pas approcher des ONG ou monter une nouvelle façon de d'aider, enfin voilà, et en fait la vie a fait que ça s'est pas fait, que j'ai découvert en fait en passant mon bac que j'avais des prédispositions artistiques que j'avais pas du tout soupçonné, en fait, même si évidemment
t'en avais aucune idée, tu faisais pas du tout ce genre de choses avant,
pas du tout, mais vraiment pas du tout.
T'avais fait une composition, c'est ça,
en fait, voilà, tu vois, évidemment maintenant quand ce que je dis, c'est enfin ce que je dis, ma mère, ce qu'elle me dit, c'est que voilà, quand j'étais petite, j'adorais en fait quand même prendre des crayons, découper, coller. Mais en fait, c'est des métiers qui n'existaient pas du tout dans mes perspectives, pas parce que mes parents voulaient me les cacher, simplement parce que pour eux, ça, voilà, ça n'avait pas de, ils pensaient même pas, je pense, que ça existait. Hein. Tu vois, directrice artistique ou être graphiste ou être photographe. Hein. En fait, c'était pas du tout dans leur environnement.
Oui, c'était pas des trucs, c'est des trucs d'enfants, c'était pas des vrais métiers, quoi.
Ouais, non, je crois que c'était pas ça, parce que. Encore une fois,
enfin, sans eux, jugement de leur part, je veux dire, juste, ils n'avaient pas conscience
en
que
fait,
ça pouvait être.
Je crois que, tu vois, comme ils viennent tous les deux de milieux très modestes, en fait, c'est des métiers qui n'existaient pas comme possibilité. Enfin, je veux dire, quand tu viens pas d'un milieu soit intellectuel, quand je parle dans les années 60, hein, quand t'as pas ces ouvertures-là, même sur la culture, tout simplement, en fait, c'est aussi des métiers que tu connais pas. Donc, et mes parents, après, ils ont beaucoup travaillé. Et pourtant ma mère adore la peinture et l'art en général, elle nous a traînés dans tous les musées après, mais c'est clair que en fait vraiment c'est trop bizarre de se dire qu'en fait à aucun moment ça a pu être.
Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est de se dire que c'était quelque chose que tu faisais déjà quand t'étais petite.
Toute petite, ouais.
Et ça revient souvent, ça aussi, je trouve, chez les gens, tu vois, il y a une connexion entre ce qu'ils font quand ils sont grands, entre guillemets, et ce qu'ils faisaient quand ils étaient tout petits. Et parfois, il y a une longue période entre les deux où ils font autre chose, quoi, tu sais. Et il y a une reconnexion qui se fait. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un prof à un moment qui t'a dit, si vous faites Sciences Po, vous allez,
vous allez passer à côté de vous. J'ai passé cette épreuve du bac, tu vois, d'art. Et en fait, vraiment, en fait, une semaine avant, j'avais globalement pas trop préparé, tu vois, les épreuves du bac, parce que j'étais en L et donc c'était assez facile de se pointer et de pas préparer si tu lisais un peu. Mais par contre, étrangement, bah déjà il fallait présenter quelque chose de physique, donc j'ai été obligée. Parce que je suis pas non plus à la base la plus grande bosseuse de la terre, ce qui est l'ironie de l'histoire, puisqu'aujourd'hui je bosse énormément. Mais ouais, donc du coup une semaine avant, je me suis mise à prendre des photos et à composer vraiment une présentation sur mon travail qui était autour du corps. Et en fait, je me suis rendu compte que en fait, pendant une semaine, je me suis pas posé de questions. C'était complètement naturel. Qu'à la fin, tu vois, encore aujourd'hui, cet objet, je le trouve hyper intéressant.
Tu l'as encore ?
Ouais. Intéressant et avec une. Ouais, effectivement, même moi, je me dis, dis donc, la jeune Morgane qui avait 17 ans, elle avait déjà, tu vois. Alors que sur le coup, je m'en rendais pas compte. Et donc, quand j'ai présenté ce travail au jury. Et ils m'ont demandé, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine? Je leur ai dit, je pense que j'aimerais bien préparer Sciences Po. Et ils m'ont dit, mais voilà, réfléchissez, vous allez peut-être passer à côté de vous-même, parce que je pense qu'ils étaient vraiment impressionnés impressionnés. Voilà, après, j'étais jeune, mais ouais, clairement, je sentais, et puis j'ai eu 19, tu vois, à cette épreuve, ça paraît.
Moi, ça me paraît beaucoup.
Accessoire, mais non, mais en fait, c'est con, mais ça, je pense que ça m'a donné aussi, envie d'explorer d'autres pistes.
Ils étaient super bienveillants, ce jury.
Ouais. Après, je pense que là, pour le coup, tu dis effectivement qu'on, je sais pas comment t'as formulé ça, mais qu'on récolte aussi ce qu'on
dégage.
Voilà. Je pense que tu vois, ils avaient envie, ils devaient sentir aussi. Je pense qu'une jeune fille qui n'a pas l'air qui a l'air assez, tu vois, indépendante d'esprit, mais en même temps, qui se retrouve à passer son bac en candidat libre, ça fait forcément se poser des questions à des professeurs qui ont 50 ans, 60, enfin, je sais pas, tu vois. Ils se disent, mais d'où elle sort, pourquoi elle veut sortir du système? Donc, il y a quelque chose. Enfin, c'est clair que, en fait, maintenant, je me rends compte que de toute façon, c'est pas anodin dès le départ, tu vois, d'avoir été aux États-Unis pendant une petite année à 15 ans et puis après d'être sorti du système scolaire classique. Voilà.
Et quand tu as fait cette composition, c'est intéressant ce que tu dis. Tu dis, j'ai pas réfléchi pendant une semaine. Et est-ce qu'en fait, quand tu crois que quand tu trouves quelque chose que t'aimes, tu le sais immédiatement, en fait? Tu t'es dit immédiatement, ok, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime et à explorer pour la suite ou...
Non, en tout cas, avec le recul, je me suis dit, c'était évident.
Parce que ce côté où tu dis, je réfléchis plus, en fait, j'ai l'impression que c'est ce qu'on cherche un peu tous à trouver, quoi.
Exactement. Et d'ailleurs, avec, mon parcours depuis, j'ai jamais réfléchi à part cette dernière année. parce que j'ai pas eu le choix, mais en fait j'avais jamais réfléchi. Et j'adore ça aussi, de effectivement enfin j'adore ça. Tu vois, juste suivre les choses comme elles vont, et puis voilà, de façon organique, se laisser porter. J'ai eu la chance en fait de vivre pour l'instant ça. Donc
tu dis que t'as pas eu le choix. C'est parce que pourquoi t'as pas eu le choix cette année?
J'ai pas eu le choix parce que j'ai fait un burn-out, comme on dit joliment dans les magazines, et en fait ça a complètement, enfin si tu veux, après je pense que ça veut tout et rien dire, et c'est hyper intéressant parce que j'ai voulu, j'en ai pas encore je pense assez parlé, simplement parce que j'ai pas eu le temps et bien l'occasion.
Ben voilà.
Mais ouais, je pense que, enfin, ce que je veux dire, c'est quand je veux dire, à la base, je me dis pas, oh là là, j'ai besoin d'en parler. Je veux dire, j'en ai évidemment tellement parlé avec mon entourage, avec les gens qui ont pu m'aider, et puis, mais par contre, je me suis rendu compte que c'était un vrai, quand tu penses à ça aujourd'hui, t'as l'impression que c'est des phénomènes de mode sur certains sujets, la charge mentale, le burn-out, le machin. Et en fait, moi, de l'extérieur, je me disais, mais effectivement, c'est des phénomènes de mode. J'avais pas le sentiment de, tu vois, de, j'avais pas
du tout. Tu pensais pas que c'était un vrai truc?
Non. Et puis, j'avais pas du tout le sentiment, moi, de, tu vois, porter sur mes épaules trop de choses, ou en tout cas, jusqu'au jour où, effectivement, un matin, enfin, tu vois, genre, je me suis retrouvée dans une situation à découvrir ce qu'était une crise d'angoisse et à pas pouvoir faire ce que j'étais censée faire.
T'étais où?
J'étais à la gare pour prendre le train pour aller voir ma sœur. C'était son anniversaire, tu vois, en semaine. Et en fait, ce qui est évidemment marquant aujourd'hui, c'est que c'était un jour de semaine, le premier jour de l'année vraiment. Enfin, tu vois, c'était le 16 décembre, son anniversaire, et c'était le premier jour de l'année où je pense que je m'autorisais à prendre sur un jour de semaine du temps pour moi et pour elle, en me disant, enfin pour ma famille, en me disant, mais voilà, j'avais trop envie d'aller la surprendre pour son anniversaire avec ma mère, et en fait, enfin si tu veux, au moment où tu lâches en fin d'année, finalement c'est aussi révélateur, puisque fin d'année pour une entreprise, de toute façon en général c'est là où tu vois, ça, voilà, t'as tout donné, il y a un moment donné, bah c'est les vacances, et tu dis, bon, je peux m'autoriser, tu vois, quelques jours de répit. Donc moi je pense que je commençais à être dans cet état d'esprit que j'avais chaque année, en fait. Mais en fait, mon corps a lâché de façon beaucoup plus brutale que les autres années, où j'étais simplement un peu fatiguée pendant mes vacances.
Parce que t'as relâché, le corps a lâché complètement.
En fait,
quoi,
je pense que, si tu veux, rien que le fait de m'être autorisée de partir en famille voir ma sœur, en fait, il y a quelque chose de... En fait, c'était aussi un... En fait, ça disait quelque chose de fort par rapport aux années que je venais de passer, parce que d'habitude, j'ai évidemment toujours essayé de prendre le temps pour ma famille, mais comme ma sœur vit à Londres, bah c'était souvent, tu vois, le week-end, elle venait le week-end, pas la semaine, donc j'avais pas à faire un choix.
Donc depuis des années, ça veut dire depuis, donc c'était il y a un an, donc ça faisait depuis 6-7 ans.
Ouais,
tu y avais, il y avait pas de, même plus, il y avait pas de.
J'avais rarement du moment, tu vois, de pour moi, où je, enfin, je prenais rarement du temps pour moi et pour faire des pauses, parce qu'en fait, bah quand t'es passionné et qu'en plus t'as une entreprise aussi comme Cézanne, qui est très, c'est une marque qui est tellement vivante parce qu'elle est animée par trop de passion. dès le départ, bah du coup, t'as pas trop le temps de réfléchir. Et en plus, quand c'est né comme c'est né, c'est-à-dire en faisant un peu toutes les fonctions de l'entreprise, et ben en fait il y a toujours une bonne raison de travailler, et en plus t'as pas l'impression de travailler, c'est ça le problème. Donc voilà, jusqu'au jour où t'as ce travail-là passionnant, deux petites filles que j'ai eues en 3 ans, et puis tout ça, il y a un moment donné, et puis des envies aussi de passer du temps avec ta famille, puis encore une fois, j'aime trop, voilà, à la base j'aime beaucoup ne rien faire. Donc c'est
paradoxal,
que mon corps
a,
évidemment, enfin de toute façon, je pense que les gens qui se retrouvent à faire des burn-out, enfin, et j'aime pas ce mot, alors on va dire, je sais pas ce qu'on va dire, mais en gros, je pense qu'il, c'est juste, justement.
C'est quoi le mot, l'autre mot pour
qu'est-ce que ça peut être? Tu vois, c'est un, enfin, il y a pas un épuisement, mais mince, il y a un autre mot que j'ai pas. mais que je retrouverai. Et encore une fois, en fait, ça s'exprime tellement. Il y a des gens, tu vois, qui font un burn-out et qui sont complètement déprimés. Il y en a qui sont complètement fatigués. Il y en a qui peuvent plus se lever du tout. Il y en a qui, en fait, ça s'exprime chez...
De plein de manières différentes. Voilà. Mais comment tu sais alors que c'est un burn-out et que c'est pas juste...
Tu le sais parce que tu vois, moi, voilà, ça m'est arrivé. Puis en fait, là, pendant les vacances où je me disais, ça va être, en fait, j'ai pas du tout compris ce qui m'arrivait. J'ai d'abord cru, en plus, que j'avais quelque chose de grave physiquement, en fait. Donc,
parce que t'as eu une crise de panique, une crise d'angoisse, c'est ça, une...
Exactement, une crise de panique. J'avais jamais fait une crise d'angoisse. Donc, en fait, c'est hyper violent. Et puis, surtout, après, en fait, j'étais tellement épuisée les jours d'après, mais vraiment comme si on m'avait assommée. Et tu vois, il restait encore 3 ou 4 jours de boulot, entre guillemets, avant vraiment Noël. Et donc, évidemment, j'y allais. Enfin, mais je sentais que, tu vois, il y avait un truc qui avait...
Un truc qui avait cassé.
En tout cas, qui avait... un truc physique où, genre, j'avais plus les mêmes ressources. Mais j'avais pas encore senti toute la dimension de cette petite épreuve. Et en fait, je l'ai ressenti quand, à la fin des vacances, au lieu de, tu vois, de ressentir qu'en fait, ça y est, les vacances m'avaient permis de repartir. Et ben, en fait, j'étais incapable d'avoir la même forme qu'avant, en fait. Et du coup, là, j'ai décidé vraiment de tout changer. Enfin, j'ai pas décidé, en fait. J'ai dû tout changer naturellement. Aussi parce que j'ai quand même j'aime trop la vie. J'ai 2 petites filles. J'aime énormément ma famille, mon mari, plus que tout. Et j'ai conscience que, moi j'ai perdu mon frère. J'ai conscience que la vie, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Je le répète souvent ça et ça paraît débile, mais en fait c'est.
Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça a pu jouer dans le fait que tu donnes beaucoup ou donnes trop?
Oui, c'est sûr. C'est sûr parce que tu vois, mon frère, il est mort il y a 10 ans. Et en fait, au même moment, ça a été aussi... Enfin, moi, j'ai travaillé depuis que j'ai 18 ans, en fait. Et j'ai toujours travaillé, tu vois, assez librement et joyeusement, mais beaucoup, enfin, avec des moments de rush. Vraiment comme, tu sais, la bonne élève ou et en même temps qui est un peu feignant et qui travaille toujours au dernier moment par à-coup. Donc, sauf que avant, j'avais beaucoup de pauses, en fait, entre ces à-coups et puis après les composantes, a pris une dimension très vite aussi où c'est devenu finalement beaucoup plus intense que ce que je réalisais moi. Et en même temps, j'étais obsédée par la liberté. Donc, je voulais rester, peinard parce que je voulais pouvoir travailler à l'heure que je voulais sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Et en fait, quand t'as des salariés, en tout cas, maintenant, j'ai plus ce sentiment-là. Mais moi, avant, j'étais persuadée qu'en ayant des salariés, j'allais être complètement emprisonnée. Et donc, bref, tu vois, du coup... et en fait, donc il y a eu ça. C'est-à-dire que je pense qu'au moment où mon frère est mort en 2008, donc les composantes étaient déjà là avant. Après, quelques mois après, j'ai pas travaillé pendant quelques mois. Quelques mois après, il fallait que je gagne, évidemment, ma vie. Et puis, en plus, il fallait que je me remette dans la vie. Et ma mère, en fait, quelques mois avant que mon frère meure par hasard, parce qu'évidemment on savait pas qu'il allait mourir, elle avait décidé d'arrêter de travailler. Bref, quelques mois après, quand moi j'ai décidé de reprendre, je me suis dit bon, en même temps, j'ai besoin aussi d'aide concrètement. Ma mère, elle m'a aidée. Il y a tellement de choses à faire quand on te reprend, et surtout quand t'as une marque. À l'époque, c'était des pièces vintage, mais après, ça a été les premières créations. Donc, elle m'aidait sur la partie administrative, parce que moi,
Ta mère t'aidait avec les composantes.
Exactement.
D'accord.
Elle m'a de toute façon toujours aidée d'une façon ou d'une autre. Tu vois, après, avant, elle travaillait là, à ce moment-là, elle travaillait plus, et on habitait évidemment chacune de notre côté, mais c'était super parce que elle, ça lui donnait aussi un projet, avec ce qu'on traversait, c'était hyper important d'avoir aussi un autre finalement. Moi, c'était important pour moi. Je suis proche d'elle à la base et de pas la voir uniquement. Dans un deuil, en fait, dans une forme de deuil, même si c'est quelqu'un qui a énormément de vie et donc qui a été abattu comme tout parent ou toute personne qui perd quelqu'un de cher, mais qui a aussi toujours été dans la vie et même après la mort de mon frère. Mais bon, bref,
c'est une façon de reconstruire quelque chose, de dévier l'énergie.
Exactement. Je pense que quand quand je me suis remise sur le projet, les composantes, et que ma mère m'a aidée, ben c'était super parce qu'en fait on avait ce rendez-vous tous les mois. Ça donnait quand même, en fait, ça nous permettait d'avoir un joli projet et en plus qui prenait forme et voilà. Et donc, et ça me
donc tu disais je t'ai interrompu, désolé.
Non, écoute.
Parce que j'allais faire le pont avec le fait que tu disais que du coup tu avais cette idée que tu vas mourir aussi, que tu avais peur de la mort et que, ouais, en fait t'aimes la vie.
Ouais.
Et par rapport à ton burn-out, c'est pour ça en fait que t'as changé, que t'as tout changé d'un coup.
Enfin, tout changé. Tu vois, en tout cas, c'est donc bref, tu vois, ouais, à l'époque, ouais, j'ai qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pardon, tu couperas.
Non, mais t'as.
Mais, non, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire?
Tu disais que t'as dû tout changer. Tu dis.
Ouais, en fait, non, c'est que en fait après ça, je pense qu'à partir du moment où après la mort de mon frère, quelques mois après, je me suis remise à travailler. En fait, d'un coup, le projet a pris rapidement une dimension, tu vois, très dynamique, et je me suis complètement laissée porter aussi par ça. Ça m'a énormément aidée, c'est évident. À ne pas penser aussi, enfin, tu vois, je veux dire, moi, mon frère, c'était pas juste mon frère, j'étais hyper proche, en fait, on était, enfin, voilà, une espèce d'alter ego, et en plus, il avait 2 ans de plus que moi, donc moi, voilà, forcément, quand il est mort, après, enfin, tu vois, ça crée un vide, que tu peux, de toute façon, pas, enfin, jamais, c'est pas un vide que tu peux combler, et donc en tout cas humainement, parce qu'une personne, elle est unique, et donc je pense que évidemment la passion du travail, elle est venue de là, et donc et puis après, en fait, quand t'as ton entreprise qui se développe sans l'avoir décidé de façon organique, et que t'as mon histoire de vie, ben tout se...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tout se combine, et effectivement, je pense
et
que...
Et tu t'oublies un peu dans le,
ouais,
la boîte, c'est ça ?
Ouais, mais moi, j'avais pas le sentiment de... Et c'est hyper important, je pense que aussi hyper important pour des gens qui auraient le sentiment de frôler un épuisement ou un surmenage.
Surmenage, c'est ça.
Voilà, exactement. Tu vois, j'avais pas du tout... J'étais hyper... à fond, hyper heureuse, et enfin, tu vois, avant le 16 décembre 2016, je me disais pas, oh là là, il y a un truc qui cloche. En fait, c'est juste que je portais beaucoup trop de choses physiquement parce que je travaillais trop, quoi. Et en même temps, j'avais eu 2 petites filles avec, tu vois, très peu de congés, pas de congés mat, en fait, évidemment, avec la liberté géniale que t'as quand t'es une femme qui entreprend, c'est que t'as la liberté de pouvoir, te libérer plus tôt un jour, travailler la nuit, tu vois. Donc j'ai pas eu le sentiment d'être passée à côté de l'arrivée de mes filles, mais je me suis pas arrêtée, en fait, je me suis jamais arrêtée. Donc en 10 ans, je me suis jamais arrêtée. Il y a un moment, forcément, ton corps il te dit attention, faut s'arrêter, et puis il y a peut-être des choses aussi où comme tu t'es, enfin, moi, comme ça n'a jamais été un projet organisé, et ben en fait, il y a un moment donné, il a pris une forme que tu n'as pas toi-même organisée. Et t'es évidemment porteur de ce projet. Et puis moi,
c'est le projet qui finit par te porter, tu veux dire.
Exactement. Et donc, en fait, c'est important, tu vois, là, justement, cette pause, je veux dire, où j'ai continué à travailler, mais autrement. Donc, quand je te dis, j'ai dû tout changer, c'est que j'ai vraiment décidé aussi de déléguer tout ce qui était plus de toute façon je pense que pour beaucoup d'entrepreneurs c'est un passage quand ta boîte elle change de dimension si t'as pas déjà une expérience dans le management et dans la structuration et tout ben il y a forcément un moment où il faut remettre les choses en question et donc tu vois j'ai eu une chance c'est terrible de dire ça mais en fait ça, je crois que ça a été ma plus grande chance aussi ce que j'ai vécu il y a un an.
Ça fait peur un peu parce que comment est-ce qu'on fait pour savoir si on va faire un burn-out ou si on va avoir un surmenage parce que est-ce que c'est le risque de tout métier un peu passion parce que moi aussi j'ai l'impression parfois de m'oublier dans ce que je fais tu vois quand moi mon podcast par exemple c'est un truc que j'ai jamais l'impression de travailler dessus
oui,
et c'est rare d'avoir ça même quand je fais du freelance j'ai l'impression de travailler et là j'ai pas l'impression donc je peux bosser toute la journée j'ai pas besoin de dire oh là là qu'est-ce que je travaille parce que j'ai même pas besoin de travailler
bien sûr,
tu vois
tu ressens pas que tu travailles
mais du coup ça fait un peu peur moi ça fait là ça fait quoi un an et demi que je bosse dessus j'ai pas spécialement pris de vacances et j'ai pas spécialement envie d'en prendre parce que je ressens pas spécialement le besoin d'en prendre mais j'ai pas envie d'aller jusqu'à la rupture tu vois
non après je pense que tu vois enfin moi j'étais pareil mais après bon vraiment je pense que tu vois l'accumulation de en fait j'avais quand même je pense psychologiquement pas du tout pris le temps aussi d'accepter même si tu vois la mort de mon frère donc ça c'est aussi un poids enfin dans la partie surmenage je sais pas en fait c'est aussi ton cerveau qui tu vois qui travaille beaucoup moi c'est terrible et magique mais je suis une boîte à idées ambulante donc le moindre truc enfin je suis curieuse j'aime tellement la vie que
du coup t'es anxieuse aussi ou pas
non pas vraiment enfin mais c'est surtout si tu veux genre je en fait tu sais, quand t'as ce sentiment qu'il y a trop de trucs que t'aimes faire et que t'as envie de faire, mais que t'as pas.
Ah ouais, je
veux que
c'est très bien, ouais.
Et ça, pour le coup, c'est un peu angoissant.
Ouais.
Enfin, angoissant, en tout cas.
Moi, j'aimerais bien avoir 10 corps et chaque corps, je lui donne une chose à faire dans la vie. Par exemple, il y en a un qui va écrire, il y en a un qui va faire de la musique, il y en a un qui va faire tous les trucs que j'ai envie de faire, en fait. Comme ça, je deviens fort dans tout.
Bah ouais. Tu vois, et voilà, c'est vrai que, en fait, moi, je crois que j'ai vraiment ce truc-là de difficilement. En plus, effectivement, quand ton travail ne ressemble pas à un travail, bah, c'est hyper difficile, c'est du plaisir. Donc, pourquoi t'arrêterais d'être dans le plaisir, tu vois? Mais en même temps, en fait, je pense qu'il y a des choses dans le travail qu'il faut savoir réorganiser. Donc peut-être même toi, tu vois, tu peux te dire.
Comme quoi, par exemple?
J'en sais rien. Pour moi, c'était très concret parce que je faisais vraiment. Si tu veux, ça allait à la fois de la partie, tu vois. Enfin voilà, comment tu diriges et t'orientes ton entreprise. Donc ça, c'est des vraies réflexions profondes Enfin, je veux dire, ça c'est mon travail principal, mais en fait concrètement, à l'époque, je faisais les photos, je faisais la retouche, je faisais les collections. Tu vois, le quotidien que c'est d'être.
Il faut arriver à ne plus tout faire.
Exactement.
C'est ça ?
En fait, il faut aussi se dire, ben en fait, où est-ce que mon savoir-faire aujourd'hui, il est indispensable, ou en tout cas et donc moi, forcément, de guider l'entreprise, c'est mon rôle aujourd'hui. Tu vois, j'ai compris que c'était vraiment ça mon rôle. Je pense que aussi pendant longtemps. Enfin pas pendant longtemps, mais les quelques années qui ont précédé, tu vois, ce burn-out, ben j'ai dû aussi former des gens, donc ça te prend beaucoup beaucoup d'énergie. Et en fait, tant qu'ils sont pas formés, toi tu continues à travailler, enfin tu continues à faire ou à refaire derrière. Donc en fait, c'était voilà, ça a été hyper intense. Et après voilà, cette année, moi ça m'a vraiment aidé à me dire ben, voilà, qu'est-ce qui est essentiel pour moi et pour Cézanne. Donc ce qui est essentiel, tu vois, c'est la partie collection, évidemment, la partie comment tu représentes la marque, pas moi je veux dire, mais comment on l'incarne, quel calendrier, tu vois, on a envie de.
Donc tu vois là où tu as le plus de valeur ajoutée.
Exactement.
En fait, c'est ça.
Mais
parfois,
en fait,
est-ce que
t'as début,
tu n'as pas peur de tu le sais pas au début?
Non, enfin tu le sais pas parce que tu fais tout quand tu es entrepreneur et que tu as commencé tout seul.
Mais il faut commencer par faire tout, tu penses, a priori, quoi.
Ah non, enfin, je veux dire, il y a différentes formes d'entreprises. Pour une entreprise, moi, je pense que la plus grande, évidemment, notre plus grande force, c'est que je sais, en fait, Non, il y a énormément de métiers aujourd'hui et d'experts, tu vois, où moi, je suis trop contente parce qu'on a des gens beaucoup plus experts que nous sur certains sujets. Quand je dis nous, c'est aussi Corentin et Thibaut qui ont construit avec moi Cézanne. Mais tu vois, clairement, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais.
T'as pas peur parfois, moi, ce que je voulais demander, c'est t'as pas peur parfois que les gens n'arrivent pas à savoir exactement ce que t'as en tête? Même les gens que tu vas former, tu vois?
Dans ton entre. Ouais, non, bah, en fait, maintenant, c'est très clair.
Parce que toi, est-ce que quelqu'un est. À la base, c'est toi qui avais toute la vision dans
oui.
ta tête.
Et comment mais en fait, il n'y avait pas de. Enfin, tu vois, ça paraît. Encore une fois, tu vas dire. Bon, ça va vraiment être le bazar, ton podcast, mais c'est.
Oui, mais c'est bien, je pense. C'est un... enfin, moi, j'aime bien.
Bon, c'est révélateur de mon esprit, mais en fait, il n'y a pas de. Il n'y a pas de vision comme on peut l'entendre dans. Tu vois, c'est de l'instinct. Et donc, évidemment, au bout d'un moment, ta boîte, elle se structure.
Oui, mais tu sais, si tu vois une pièce, tu sais si, par exemple, c'est Cézanne ou c'est pas Cézanne.
Ah, bah, bien sûr, évidemment.
Et est-ce qu'il y a des... Mais est-ce qu'il y a des gens qui le savent, qui vont le savoir aussi bien que toi?
Ah, non, mais en fait, si tu veux, c'est pour ça que je te dis que dans les choix que j'ai dû faire, pour continuer à bien faire Cézanne et moi, à pouvoir être bah voilà la, à trouver le pardon excuse-moi la meilleure façon de guider cette entreprise ben il fallait que je me dise où est-ce que je suis indispensable et clairement là-dessus je suis enfin tu vois
d'accord il faut trouver là où t'es indispensable en fait
c'est-à-dire que c'est dans le vêtement la vérité du produit du style et de l'incarnation là-dessus évidemment c'est mon métier mais par contre j'ai plus besoin tu vois de enfin j'ai plus besoin j'ai une super équipe aujourd'hui voilà qui peut aller en shooting sans moi à partir du moment où on a réfléchi à tu vois quel univers quel mannequin j'ai enfin
tu penses que c'est valable à tous les stades ça par exemple que moi je fais des choses qui servent certainement à rien par rapport à d'autres choses qui ont beaucoup de valeur ajoutée
oui.
et que enfin... je pourrais peut-être même travailler moins est-ce que je pourrais tu penses enlever 20% où je fais absolument rien et tu vois, et genre prendre du temps où je fais rien du tout.
Oui, je pense, en fait. Tu vois, en fait, on se...
J'ai toujours l'impression que j'en fais pas assez, en fait.
Bien sûr, mais moi aussi, j'avais ce sentiment-là. Mais après, c'est aussi... Enfin, après, moi, tu vois, c'était plus facile et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais une super équipe quand ça m'est arrivé. Je pense aussi que c'est pour ça que ça m'est arrivé, ce burn-out. C'est que j'avais une équipe incroyable et je savais qu'elle était prête et que je pouvais compter sur cette équipe pour tu vois porter le projet opérationnellement et même sur plein d'autres aspects et que avant mon corps ne s'était pas enfin mon esprit et mon corps ne se permettaient pas de s'arrêter et toi quand tu disais ben comment on peut échapper tu vois comment on peut savoir si on, à un moment donné on frôle un surmenage ou en fait il y a souvent des signes quand même et moi maintenant ça me paraît évident que j'en ai eu mais que je les ai pas du tout écoutés et puis tu te dis toujours que t'es enfin ça va tu te reposes un week-end et puis
en fait tu crois toujours que t'es invincible surtout
ouais tu vois et puis surtout quand tu sais pas ce que c'est tu peux pas t'imaginer que en fait vraiment je te jure moi je me disais mais les articles dans les magazines c'est vraiment du enfin tu vois ça fait partie des trucs qui font vendre et évidemment qu'il y a certainement des gens qui ont mais en fait tu peux pas soupçonner parce qu'en plus ce qui est terrible enfin terrible je pense pour les gens qui sont affectés par une immense fatigue comme ça c'est que c'est pas non plus une maladie tu vois c'est pas t'as pas un mot comme cancer enfin c'est je vais dire un truc
il y a pas un virus identifiable
non, voilà donc en fait en plus tu sais même pas comment tu vois tu sais pas ce qui t'arrive tu sais pas vers qui te tourner tu sais pas quoi faire et en plus je pense que pour les gens de l'extérieur enfin il y en a heureusement moi je pense que tu vois mon mari il a tout de suite compris et était hyper respectueux de ce que je vivais mon équipe aussi parce qu'ils m'ont vu travailler avant comme une dingue et donc pour eux et puis surtout ils m'ont vu fatiguée en fait je pense que ça se voyait un peu mais c'était pas non plus enfin si tu veux je continuais quand même à rire à marcher à
c'était quoi les signes pour toi avec le recul.
Tu veux dire les signes avant?
Ouais, les signes avant coureur.
Les signes avant, ben tu vois, il y avait des moments où j'avais des espèces de vertiges. Ça durait pas longtemps, mais j'avais des vertiges. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Vertiges. Ouais. Surtout, j'ai eu des vertiges, si tu veux, souvent le week-end.
Donc les moments où t'arrêtais.
Ouais, exactement. Mais c'était des petits vertiges. Donc en fait, j'avais un petit moment de vertige et puis, si tu veux, 10 minutes après.
Moi, ça me donne presque envie de pas arrêter. Tu sais, j'ai l'impression que si j'arrête, c'est là
non,
que je vais avoir les moments.
Non, mais alors, enfin après, tu vois, voilà. Mais moi, en fait, je crois que, et tu vois, moi, je suis pas du tout quelqu'un qui cherche, je sais pas, le côté balance, enfin équilibre à la base, c'est pas ma nature. Je suis passionnée, je suis comme ça, avec un burn-out, je suis comme ça, même en faisant un burn-out, je sais ce que je suis aussi, et c'est ce qui m'anime, tu vois, le côté, j'ai une idée, où j'ai une envie, où j'ai un, tu vois, une passion, et j'y vais, quoi. N'empêche que il faut essayer de, ça m'a quand même, un tout petit peu questionner sur tu vois le besoin de se forcer, parce que je crois que c'est se forcer quand t'es passionné et que t'es un peu fou, il faut se forcer à prendre du temps à s'arrêter, et ça peut être voilà.
Tu y arrives là, t'arrives à t'arrêter?
Ouais.
Donc il y a des moments où tu fais rien par exemple ou...
Oui, en fait rien.
Non mais on fait jamais rien, mais
je me retrouve à faire du yoga 3 fois par semaine, ce qui est extraordinaire parce que je suis pas du tout sportive à la base, ni tu vois ni très zen, mais c'est génial, et je fais ça avec une prof qui est géniale et hyper inspirante, donc ça rend le truc sympa, clairement. Il fallait que ce soit une rencontre, je pense, pour que je sois,
encore une fois, c'était la bonne personne, c'est ça?
Ouais, en fait moi je suis très sensible à l'humain, donc effectivement c'est aussi ce qui m'inspire, tu vois, pour que je puisse, pour que t'aies, voilà. Et puis tu vois là, on rentre de 15 jours en Argentine avec mon mari en amoureux, et tu vois, c'était génial parce que de prendre les 15 premiers jours de l'année, c'était un symbole super fort aussi pour moi, de dire ben tu vois, je, parce que la rentrée, c'est un, normalement la rentrée t'y est, tu vois, c'est comme manquer le premier jour d'école, quoi.
Et t'as pas le sentiment, ou t'as plus le sentiment que tu devrais être en train de travailler?
Non, vraiment, ça c'est assez magique. Enfin, je veux dire, après, en fait, le truc, c'est qu'aussi le fait d'avoir accepté fondamentalement, enfin accepté, et puis ça s'est fait, de déléguer les tâches opérationnelles, tu vois, sur la, je te dis, par exemple, que ce soit aller sur chaque shooting ou retoucher chaque photo ou machin, bah au bout d'un moment, quand tu le fais plus, en fait, t'as du temps aussi pour penser à, ouais, mieux penser, et tu vois, je pense que le projet demain, il aurait pas pu naître sans cette année, donc c'est assez magique.
Parce que t'as la tête dans le guidon et tu fais toujours les mêmes choses et tu prends pas le temps de réfléchir un peu différemment, c'est ça, ou...
Ouais, simplement parce que t'as pas, du coup, t'as effectivement pas assez de temps pour, tu vois, te poser la question de, ah, en fait, voilà ce qu'on peut aussi faire, pas, tu vois, enfin, en gros, moi j'ai toujours eu le sentiment d'avoir assez de souffle pour, même quand c'était le rush, pour, tu vois, pour apporter des idées, des envies de nouveaux projets. Enfin, pour mon équipe, je sais que c'est, je veux dire, ils sont vraiment géniaux, mais c'est vrai que pour eux, je pense que quelquefois c'est aussi intense, parce que je veux dire, quand t'arrives avec une, et Corentin, il est pareil,
on est Corentin, tous les
deux,
c'est ton associé.
Mon associé, on est tous les deux de grands, enfin tu vois, de grands enfants, et donc quand on a une idée le matin, hop, on a envie de la mettre, on est impatient, on n'est pas toujours très raisonnable, nous, en fait, dans nos... Mmh.
Qu'est-ce que tu as mis en place d'autre, alors, du coup, maintenant? Qu'est-ce qui est différent, en fait, dans ta vie par rapport à celle d'avant?
Tu vois, du coup, en fait, tous les matins, t'as vu, j'avais un petit bureau, avec, que je partage, en fait, qui est à la base le oui. bureau de mon mari, qu'il a eu pour son anniversaire, mais du coup, je lui pique un peu, et en fait, c'est idiot, mais le fait de passer, essayer de m'imposer, en fait, de commencer mes journées, en tout cas au bureau, pas avant 11 heures. Donc en fait, comme ça, le matin, je peux déjà bien m'occuper de mes filles, les accompagner à l'école, et puis après, tu vois, prendre le temps de me... Soit j'ai mon yoga 3 fois par semaine, mais aussi j'ai beaucoup, beaucoup de travail. Et là, en fait, je peux être dans ma petite bulle, silencieuse ou en musique, avec personne qui intervient, parce que dès que tu arrives au bureau... je pense que c'est vrai pour beaucoup de...
T'as des interruptions et...
En fait, il y a énormément de questions, en fait, tout le temps. Et en plus, même moi, en fait, je les adore tellement dans mon équipe. J'aime bien, c'est important d'aller les voir, de leur poser des questions. Donc en fait, ça te prend beaucoup de ton énergie. Et puis quelquefois, t'as pas du tout le temps, du coup, de faire tout ce que t'avais prévu de faire.
Donc tu te fais une sorte de petit moment privilégié où tu travailles sur les trucs importants ou les choses sur lesquelles tu as envie d'avancer, c'est ça?
Exactement. Et même, ça peut être un truc perso aussi. Du coup, tu vois, avant 11h le matin, en fait, je m'occupe de moi, quelque part, à travers soit du travail ou à travers du yoga ou à travers... Ça peut être...
Tu réinvestis dans toi un peu.
Exactement. Et en fait, je pense que quand même, quand t'es... parce que j'ai quand même une grande partie... je suis, tu vois, à la fois chef d'entreprise, mais je suis très créative. Et en fait, je m'en rends compte que ça nourrit énormément. Enfin, en fait, ça donne aussi forcément beaucoup de fraîcheur au projet créatif, en fait.
Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu aurais dû faire avant, ou est-ce que tu regrettes de ne pas l'avoir fait avant?
Non, En fait, j'ai pas de regrets, honnêtement. J'ai pas de regrets parce que, encore une fois, je pense aussi que, tu vois, si ça m'était pas arrivé, je me serais jamais, j'aurais pas remis en question l'organisation facilement. Et qu'en fait, voilà, cette grande année qui a été à la fois, douloureuse physiquement, intellectuellement, et en même temps, elle a été tellement riche et tellement incroyable et aussi, ben, tu vois, genre, entre la jeune Morgane, qui avait 18 ans, qui a commencé IB, et puis le moment où j'ai perdu mon frère en 2008, et en 2016, enfin, 2017, tu vois, où vraiment, j'ai eu cette ordonnance d'arrêter, malgré moi. Et ben, en fait, voilà. Il y a un moment donné, en fait, où toutes ces années-là, si t'as pas de pause, tu vis au quotidien, tu t'apprécies la vie au quotidien, mais en fait, tu te rends même pas compte de la grande personne que tu deviens, en fait. Et t'as même pas le temps. Moi, souvent, les gens, ils disent, oh là là, c'est fou, Cézanne, ce que vous avez fait et tout. Et nous, et je le dis vraiment avec mon mari ou Corentin, c'est hyper sincère, on n'a pas du tout eu le temps de s'en rendre compte ou de se réjouir ou de quoi que ce soit, et tant mieux.
C'est vrai, tant mieux.
Ah ouais, tant mieux.
Tu penses pas que de temps en temps, faut célébrer les, regarder le chemin parcouru.
Ouais, mais tu vois, moi, comme je vis la vie joyeusement quand même, en fait, au quotidien, je veux dire, je célèbre quand je travaille en me marrant et que c'est un plaisir de travailler avec mon équipe, mais en fait, d'être là à se dire, oh là là, regarde, c'est génial ce qu'on a fait ou machin, en fait, enfin, déjà, ça nous vient pas du tout à l'esprit, ni naturellement, parce que je pense...
Mais il n'y a pas d'insatisfaction.
Non, il n'y a pas d'insatisfaction, mais il y a toujours une...
C'est quand même toujours une envie d'aller plus loin.
Ouais, pas plus loin, juste il y a toujours des idées. En fait, je crois que ce qui nous caractérise et ce qui fait que, tu vois, ça marche trop bien entre Thibaut, Corentin et moi, on est tous actifs différemment dans ce projet... C'est qu'en fait on a des idées tout le temps en permanence et qu'on a envie de les, enfin tu vois, moi j'ai des idées, j'ai des envies, et en plus quand t'es accompagné d'une équipe franchement je le répète mais qui est incroyable, et ben en fait ces idées t'as envie de les réaliser.
T'as plus d'idées depuis que t'as changé ton mode de vie ou pas? Ou pareil.
Il faudrait demander à mon équipe. Je pense que eux, ils se disent que malheureusement, j'en ai pas moins. Et oui, peut-être en tout cas que du coup, j'ai plus de volonté. Enfin, tu vois, quand il y a une idée, ben là, comme demain. Enfin, c'est une idée. C'est en fait, c'était là depuis toujours, mais c'est une idée qui a pris forme. Ben, j'ai plus de temps pour en faire. Tu vois, une réalité donc ouais.
Est-ce que tu penses que maintenant c'est sûr que tu feras pas un deuxième burn-out par exemple? Ou est-ce que tu penses que tu peux retomber facilement dans le...
En tout cas non, je me dis que ça va être beaucoup de rigueur pour moi avec ma nature, tu vois, un peu à fond.
Ouais, c'est ça.
Donc mais en fait je crois que je déjà franchement de m'être autorisée à arriver tu vois au bureau à 11h, alors et en plus enfin, je veux dire, ça change tout. Avant, je pense que j'étais au bureau tous les jours hyper tôt. Enfin, ça change tout. Ma journée, elle est quand même, plus soft. Et puis, je pars aussi, je pars plus jamais. Enfin, il y a des jours où j'essaye d'aller chercher mes filles. C'est trop important pour moi, même si après, je dois retravailler, mais idéalement même, ne pas retravailler après. Et puis, de toute façon, j'essaye de me dire, je pars à 7h moins de quart ou 7h.
Tu t'imposes une contrainte.
Ah ouais,
mais la contrainte, ça peut rendre plus créatif aussi, non? Il y a un côté où tu hiérarchises tes priorités ensuite, non?
Exactement. Et puis surtout, ouais. Et puis tu vois, je pense aussi, je suis devenue mère. C'est bizarre de dire ça, mais j'ai pas eu le temps de... Sur le coup, j'ai pas eu le temps. Enfin, tu vois, c'est un peu comme Cézanne. On n'a pas eu le temps de
se dire que c'est bizarre de dire ça parce que tu le dis jamais ou tu le réalises jamais, ça?
Je le réalise maintenant, évidemment. Quand tu te lèves le matin à 7h du mat pour... parce que tes filles... Ou la nuit, parce qu'il y a un problème dedans, t'as le temps de le réaliser. Mais vraiment d'être... Quand je veux dire, au-delà de la partie quotidienne, tu vois, d'être parent... Effectivement, juste de réaliser en fait ce que en fait c'est en fait quand on devient parent, on n'est plus enfin il y a des statuts quelque part dans la société Où d'un coup, en fait, tu comprends ce que vivent les autres, ou tu vois, une réalité qui t'était complètement étrangère, quoi. Donc, en fait, quand je dis devenir mère, c'est aussi d'un coup rentrer dans les. Et y a, tu vois, autant de.
Ça crée de l'empathie, c'est ça, ou...
Oui, et puis tu comprends, en fait. Enfin, d'un coup, moi, si tu veux, genre, le fait d'être devenue maman, donc, en fait, je réalise, on n'avait pas beaucoup. Avant, moi, ma première fille, de toute façon, on n'avait pas vraiment de parents dans notre équipe. Maintenant, on en a, tu vois, beaucoup plus. Mais aussi, pour moi, c'est un prioritaire de faire en sorte que ces parents, que ce soit des femmes ou des hommes, mais en particulier les femmes, quand elles n'ont pas un système, tu vois, qui leur permet de pas avoir de charge mentale, ou en tout cas pas beaucoup, ben, pour moi, c'est important de, voilà, j'ai compris que c'était important de travailler aussi pour que elle puisse partir tôt, enfin, en tout cas, tu vois, sans aucune culpabilité, sans, voilà. Ça, c'est vraiment, ça paraît complètement idiot de dire ça, mais en fait, tu te rends compte.
Parce que les choses les plus, tout à l'heure, au début du podcast, tu disais, ça paraît bateau aussi, mais les choses les plus bateaux, c'est pas les plus difficiles à faire souvent.
Ouais.
Et genre, moi, je dis souvent, j'aime bien les gens gentils. Et quand je dis ça, les gens me disent ouais, super, quoi. Mais en fait, c'est pas très fréquent, les gens gentils, par exemple, tu vois. Enfin, pas, ça dépend dans quels environnements, mais je trouve que ces choses un peu bateaux, souvent, c'est assez difficile à. Enfin, plus difficile à trouver que ce qu'on dit, en quelque sorte.
Ouais, c'est vrai. Enfin, en tout cas, tu vois, c'est vrai. En tout cas, ça demande un. En tout cas, ça, ce qui paraît, tu vois, simple comme bonjour, de se dire, ben. Une femme ou un homme, hein, mais bon, moi, il y a beaucoup de femmes dans mon entreprise, et en plus je suis une femme, donc enfin, il y a un moment donné, c'est pas évident, une vie professionnelle, quand tu culpabilises parce que tu dois rentrer tôt, ou tu dois aller chez le médecin ou machin. Et moi, en fait, maintenant, je suis trop contente d'être devenue mère, parce que ça me permet de ça me permet de aussi, tu vois, travailler autrement, et j'espère permettre aux femmes, aux jeunes femmes et aux autres de s'autoriser à, voilà, à faire comme elles peuvent, quoi, au mieux, et
se foutre la paix un peu, c'est ça?
Ouais.
Et tout début de la discussion, tu disais que tu avais peur de la mort.
Ouais.
Est-ce que c'est parce que tu as peur de pas avoir le temps de tout faire, ou est-ce que c'est parce que tu as peur que les gens autour de toi souffrent?
Alors, honnêtement, c'est parce que j'ai, tu vois, j'aime trop la vie, il y a évidemment, enfin, par rapport à mes parents, il faut vraiment pas que ça m'arrive, parce que quand t'as déjà perdu un enfant, c'est hors de question. Enfin, j'espère, tu vois, que ni ma sœur ni moi, on sera enlevés. Enfin, ils ont pas besoin de ça. Donc ça, c'est clair qu'il y a, c'est dur, ça, en fait, de ressentir ça, de aussi individuellement, de toutes les envies plus personnelles que je pourrais avoir, de porter aussi le poids de. T'as besoin d'être en vie, et t'as besoin de rester en vie, et pour tes parents, quoi. Déjà, il y a ça. C'est sûr que dans mes choix, même, tu vois, genre, moi, je prends pas trop de risques. je prends pas trop de risques physiques. Déjà, bon, je suis pas très sportive, mais en plus, si tu veux, genre.
Tu vas pas faire du saut élastique, quoi.
Non, enfin, il y a plein de trucs où je me dis, j'aime déjà trop la vie dans sa simplicité. Franchement, je vais peut-être pas me. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que je suis avec un homme qui, lui, n'a pas peur. Enfin, tu vois, des aventures physiques, et donc il fait tous les trucs les plus, tu vois, genre, il est pilote d'avion amateur, il fait du parachutisme, il fait de la plongée en hyper profond, là, enfin, et en fait c'est très drôle, parce que, et en même temps, il m'a aussi permis de quelquefois dépasser un petit peu mes petites peurs, et parce que quand tu fais les choses prudemment, en général ça se passe bien.
Mais, ouais, c'est un peu, c'est lui qui t'a poussé à un moment à lancer Cézanne, à lancer en tout cas les composantes pour de vrai, non?
Ça, ouais, alors en fait, ouais, nous, pas... on s'est rencontrés, il y avait les composantes, et donc j'avais, il m'a vraiment poussé, effectivement. Donc moi, j'avais les clientes, c'était des pièces vintage uniquement, et puis j'avais envie de lancer mes créations. Et, mais bon, je prenais mon temps. Moi, j'étais indépendante, j'avais besoin de personne, donc j'étais pas pressée non plus. Et je voulais juste bien vivre, tu vois, le quotidien, quoi. Et sauf qu'au bout d'un moment, en fait, là, il y avait trop peu de pièces pour trop de demandes, de pièces vintage, évidemment, puisqu'elles étaient uniques. Et lui, il se disait, mais elle se rend pas compte, mais les gens, ils sont hyper frustrés. Enfin, elle se rend pas compte, je m'en rendais peut-être un peu compte, mais en tout cas...
Parce qu'il y avait une rareté sur ça, sur tes produits,
oui,
du coup.
Mais en fait, enfin, je pouvais pas physiquement, tu vois, proposer plus de pièces. Déjà, 100 par mois que tu retravailles, que tu cherches.
C'est un travail
de
dingue.
Que tu rapièces, que tu t'embellis, que tu prends en photo quand t'es toute seule avec ma mère qui m'aidait sur la partie, évidemment, administrative et même, quelquefois, organisation de toute cette petite logistique. Mais n'empêche que c'était déjà beaucoup, beaucoup pour moi, toute seule. Mais bon, en fait, moi, tu vois, je me laissais porter, et puis, en même temps, j'avais vraiment cette envie de lancer mes créations, et puis voilà, j'avais de plus en plus de demandes de clientes qui disaient mais oh, c'est trop bête, j'aurais trop aimé avoir cette blouse, j'aurais trop aimé avoir cette paire de chaussures, mais elle était unique, et donc d'un coup, forcément, si tu veux, tout s'est aligné, où je me suis dit, mais en fait, j'ai appris tellement de choses avec le vintage. Enfin, finalement, t'apprends tout, parce que l'histoire de la mode, elle est là, dans chaque coupe, dans chaque matière, dans chaque couleur. Enfin, je veux dire, j'ai été témoin. C'est comme si on m'avait, tu vois, t'apprends tout à travers aussi ce qui a déjà été fait. Et donc, il y a eu ça. Il y a eu mon mari, effectivement, qui n'était pas mon mari, mais c'était une rencontre déterminante. Parce
qu'il n'a pas fait une liste de fabricants.
Ouais.
Il t'a obligé à aller...
Dit, en fait, à Noël... donc, en fait, j'avais décidé de lancer mes créations, mais je prenais mon temps. Je n'étais pas pressée. Et donc, à Noël, lui, il est parti une semaine. Et puis, il m'a dit, en partant, il m'a dit, mais regarde, Morgane, je t'ai imprimé cette liste. Vas-y, pendant que je ne suis pas là. Et si t'es pas allé voir au moins un mec... avant mon retour, de toute façon, genre, enfin, on se revoit pas tant que t'es pas allé voir. Et en fait, c'est trop drôle. Évidemment, je l'ai fait. Et en fait, j'ai commencé à lancer les premières créations 3 mois après. Et donc, les composantes, ça a été progressivement. En fait, c'est devenu uniquement des créations jusqu'au jour où en fait, lui, et qui a vraiment un espèce de sens et un instinct hyper fort, Thibaut. Il me dit, mais vraiment, c'est pas clair, peut-être pour les gens, que c'est uniquement, donc ça marchait très fort, hein, mais que c'est uniquement des créations, et surtout, je crois qu'il sentait que j'avais envie de dire autre chose de ce projet, et de, voilà. Et donc, en fait, il m'a beaucoup encouragée à réfléchir. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, tu vois, l'envie d'assumer, en fait, un parcours plus créatif et une marque, et une vraie marque entre guillemets, parce que, et en fait, ouais, il avait complètement raison, et donc ça, c'était en 2009, tu vois. Ce qui est drôle, c'est qu'on a changé en 2013, donc en fait, tu vois, je prends mon temps.
Ouais, mais d'où l'importance quand même d'avoir parfois au bon moment les bonnes impulsions, quoi, les bonnes personnes qui vont te faire passer le...
Bah, enfin, oui, c'est, je veux dire, nous, on... ouais. Non, non, c'est magique. Moi, je crois aux signes.
Tu vois des signes et tu les connectes, c'est
non,
ça?
Non, ouais, en tout cas, je crois que... Enfin, tu vois, en tout cas, ça m'arrange d'y croire parce que mon frère, il n'est plus là et que je me dis, ben, y a des vraies belles rencontres et des, tu vois, des vrais beaux moments où j'ai vraiment l'impression que c'est pas juste. C'est très bizarre, mais je me dis, mais ça peut pas être juste le hasard. C'est tellement dingue. Et Thibaut, enfin... Et Corentin, c'est pareil. Et enfin, tellement de choses dans ma vie font que je me dis, ben, enfin, en tout cas, ça me fait plaisir de croire qu'en fait, tu vois, je suis bien accompagnée, surtout par mon grand frère je suis pas du tout croyante, mais j'ai une spiritualité. Et je me dis, bon, voilà, peut-être qu'il me. En fait, c'est pas que je vois un fantôme ou un esprit. Pas du tout, hein. Je rassure tout le monde. Mais je pense en fait que son, évidemment ça, enfin il est mort physiquement, mais il est pas du tout mort. Moi dans mon, tu vois, enfin, je veux dire c'est un mec qui a existé dans ma vie 24 ans, et donc 24 ans, tu vois c'est tu l'arrêtes pas parce que physiquement il y a quelqu'un qui, enfin, je veux dire ça continue. Et moi en fait juste je pense que le fait Il y a une petite partie de lui forcément qui continue en moi, et donc je suis peut-être plus à l'écoute et grâce à lui en fait, enfin plus à l'écoute, tu vois, des autres, des signes. Donc voilà, c'est plus rationnel que simplement se dire qu'il y a des signes bizarres. C'est voilà, je pense qu'on est plus sensible à, je suis plus sensible naturellement du coup, et du coup ben tu vois et tu saisis des petits détails hyper, ça rend la vie aussi très belle quoi.
Ben merci beaucoup Morgane d'être venue sur Nouvelle École.
Merci.
Où est-ce qu'on envoie les gens qui s'intéressent à ce que tu fais du coup ou à toi? sur internet je veux dire.
Ouais. Non, non, bien sûr. Non, chez moi. Non, Cézanne pour la marque. Et puis moi, j'essaie de partager un peu mes inspirations et mes images sur mon compte Instagram.
Et c'est donc
mon nom et mon prénom, Morgane Cézalori.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ça vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez m'aider. Et je vais vous dire comment. Premièrement, abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast. C'est hyper facile. Et si vous êtes sur Apple Podcasts ou iTunes, vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence. Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis. C'est donc @_nouvelle-école. Underscore, c'est le tiret du bas. Si vous voulez recevoir 3 recommandations de ma part chaque vendredi par email, il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvelle-école.org. N'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage 3 choses qui m'ont plu. Ça peut être des livres, des applications que j'utilise, des films ou des documentaires que j'ai vus. Enfin, dernière chose, si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible. Vous pouvez le faire via Patreon. C'est à patreon.com/nouvelle-école-podcast et les dons commencent à 2 euros à peine. Et après, libre à vous de donner ce que vous voulez. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.